On va regarder en fait une première partie de ce passage qui nous parle de Jésus, hein, c'est de lui dont il est question tout le long de ces versets. Et on va regarder qui il est, et puis une deuxième partie tout à l'heure, on va regarder qu'est-ce qu'il fait Jésus. Et je dois vous dire que ce découpage et beaucoup d'illustrations aussi que je vais utiliser ce matin sont tirées d'un message que j'ai voulu écouter cet été, d'un mec qui s'appelle Stuart Olliott, dont j'ai beaucoup profité, et donc c'est très inspiré de ce qu'il a pu nous partager cet été. Le Fils, d'accord, c'est la part de Jésus. Et en fait, tout ce passage nous montre que Jésus est la personne la plus importante de tout l'univers. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a premier tout le temps qui revient, il y a le mot tout, qui revient aussi, et donc Jésus, dans ce passage, Paul nous le présente, inspiré par Dieu, inspiré par l'Esprit, tel qu'il est vraiment la personne la plus importante de tout l'univers. Alors, on lit que le Fils, au verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible. Ok, alors, si je prends cette feuille, qu'est-ce que vous voyez sur cette feuille? Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer. Du blanc.
C'est noir.
Hein?
Et
noir. Et noir derrière. Voilà. C'est la feuille qui cache la forêt. Donc, y a a priori rien. Pourtant, on voit qu'il y a quand même une feuille, mais elle semble pas très explicite, quoi. On ne voit pas trop. S'il y a une feuille, pourquoi est-ce qu'il y a une feuille que je puisse tenir dans les mains ce matin? Ok, donc il y a des personnes, il y a au moins une personne qui a fait cette feuille et qui a fait qu'aujourd'hui je peux l'avoir. Si j'ai quelque chose dans ma main, c'est qu'elle existe et que quelqu'un a fait que cette feuille existe. Sinon, j'aurais rien du tout. Voilà, qu'est-ce qu'il est intelligent, ce garçon. Donc, oui, la même chose, n'est-ce pas? Quand on regarde autour de nous, quand on regarde la colline Saint-Jacques, quand on regarde le soleil qui se lève ce matin, quand on regarde les nuages des tourneaux qui sont en train de tourner là dans le ciel en cette saison, on se dit, mais d'où vient tout ça? S'il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait, ça n'existerait pas. Et donc, bien qu'on n'ait pas aujourd'hui devant nous la personne qui a fabriqué cette feuille, ou les personnes qui ont fabriqué cette feuille, s'il y a une feuille, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriquée. Il y a des choses qui nous sont invisibles et des choses qui nous sont visibles. Et le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on va relier ces choses invisibles, ces personnes invisibles, avec ce qui est visible. Peut-être on a besoin un peu d'éclairage. Alors, je vais demander à Charles, qui m'a l'air d'avoir une... Tu ressembles un peu à un scientifique. Alors, on va faire une petite expérience tous les deux, si tu veux bien. Je vais t'inviter à venir ici. Est-ce que tu peux juste allumer la bougie pour commencer? Donc Charles est en train d'allumer une bougie. Il produit de la lumière, de la chaleur aussi. On a besoin de cet éclairage, de cette lumière pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part quand même sur cette page un moyen de connaître celui qui a fait que cette feuille existe. Donc Charles, je sais pas si tu veux bien passer la feuille au-dessus de la flamme, voilà, sans la brûler. Mais juste pour la chauffer un peu, et on va voir si on peut quelque chose qui peut apparaître.
On va sortir par la technique.
Voilà. Pas de l'église de Cavaillon, le 10 février. On la passe bien partout. C'est pas mal, je crois. Comment ça peut savoir, voilà. Visible, peut-être le... Ok. Alors, tu nous montres ça, c'est ça. Ah, on n'arrivait pas à le voir avant. Maintenant, avec l'éclairage de cette bougie, apparaît clairement sur la feuille, nettement, distinctement, le nom de l'auteur. L'auteur suprême, la cause première, pourquoi il y a une feuille ici dans nos mains. Pourquoi il y a l'ensemble de la création? Parce que Jésus et celui qui a tout créé, celui qui nous fait connaître en fait ce qui est pas visible. Est-ce que vous avez compris avec cette illustration en fait ce que Paul est en train de dire? Le Fils est l'image du Dieu invisible. Dieu, qui l'a vu? Personne. Jean 1,18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, lui, il nous l'a fait connaître. C'est lui qui nous permet de connaître le Dieu véritable. Vous vous rappelez peut-être aussi cette parole de Jean, de l'apôtre Jean, qui rapporte la question de Philippe. Philippe, il vient voir Jésus, il dit « Ah, montre-nous le Père !» et ça nous suffit. Et vous rappelez quelle est la réponse de Jésus? Qu'est-ce qu'il répond?
Si vous me connaissez, vous connaissez le Père.
Ouais, alors si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Parce que le Père est en moi et moi, je suis dans le Père. Donc il y a une telle intimité entre Dieu, le Fils, Jésus-Christ et le Père, que quand on a vu l'un, on a vu l'autre. Tiens, cette feuille, d'accord, qui dit le Seigneur Dieu éternel. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de nommer Dieu? Yahweh, si vous voulez. D'accord? Le Dieu unique. Il est là. Alors j'ai une photocopieuse spéciale, je fais. Et maintenant, magnifique, j'ai deux fois la même chose. Et en même temps, sont différents, mais en même temps c'est la même chose. Ça, c'est écrit exactement pareil, de la même manière, la même taille, tout y est exactement l'un comme l'autre. Celui qui a vu le Fils a aussi vu le Père. Donc, le Fils est l'image de Dieu. Il est celui qui révèle, qui fait connaître, mais pas simplement voilà, une bonne aide pour rencontrer quelqu'un d'autre. Quand on a vu Jésus, on a vu le Père. On connaît Dieu véritablement. Et si maintenant, je mélange les feuilles, on serait incapable de dire c'est quelle feuille que j'ai montrée en premier, c'est quelle feuille que j'ai montrée en deuxième. On peut essayer de deviner, mais au final, la même taille. Je les ai coupées d'une façon particulière qu'elles ont exactement la même taille. Voilà. Donc, on ne peut plus distinguer en fait entre les deux. Elles sont différentes, ces feuilles, mais en même temps, elles sont exactement pareilles. Faisons un petit quiz. Vous avez au verso de vos feuilles un petit quiz, un petit tableau. Je vous laisse prendre un petit moment pour répondre aux questions. Okay? Dans ce tableau, il y a trois personnes. Dieu, Jésus, si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire moi, qui vous êtes. Et à côté, sur la partie à gauche, vous avez tout un tas d'attributs. Est-ce qu'on peut dire que ces attributs sont entièrement vrais pour le Père? Pour Dieu. Alors, est-ce que Dieu, le Père, est saint? Oh! Ça c'est normal, parce que si Dieu est Dieu, il est saint. Il ne peut pas être autrement que saint. Il ne peut être que unique, l'unique Dieu. Est-ce que Jésus est saint? Ah. Alors bien que Jésus, Dieu le Fils, est différent du Père, mais lui aussi il a le même attribut, la même caractéristique. Lui aussi, il est saint, il est unique. On tente, est-ce qu'on peut faire ça pour nous, pour moi, pour vous? Est-ce qu'on peut dire, voilà, Marc Étienne est saint, entièrement saint, en lui-même? Ah, on va venir à ça, mais en moi-même, on peut pas cocher cette case. Alors, je ne sais plus trop dans l'ordre ce que j'ai mis, mais est-ce qu'il est entièrement juste? Est-ce qu'on peut dire de Dieu qu'il est entièrement juste? Est-ce qu'on peut dire de Jésus qu'il est entièrement juste? Est-ce qu'on peut dire de moi, est-ce qu'on peut dire de vous, que nous sommes entièrement justes en nous-mêmes, pas par nous-mêmes, c'est comme ça qu'on est dès qu'on arrive au monde? Je ne sais pas. Alors, on va laisser un peu tomber la troisième colonne, parce qu'en fait, on ne va pas s'en sortir. Mais par contre, ce que je vous invite à regarder, c'est que tout ce qu'on peut dire de Dieu le Père, la manière dont on peut le décrire, dont on peut le concevoir, ce qui fait sa personne, c'est la même chose qu'on retrouve dans le Fils. Est-ce que Dieu est entièrement patient? Est-ce que Jésus est entièrement patient? Est-ce que Dieu est pur? Entièrement pur. Est-ce que Jésus est entièrement pur? Est-ce qu'il a commis des péchés? Jamais. Est-ce que Dieu est entièrement sage? Est-ce que Jésus, on peut dire qu'il est entièrement sage? De la même manière, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu sait tout? Est-ce que Jésus sait tout? Alors, vous pouvez passer toute la liste en revue et voir que tous les attributs qu'on peut donner à Dieu sont exactement vrais aussi pour le Fils. On peut les appliquer autant à l'interdit. Même, est-ce que Dieu est le Créateur? Ça, c'est quand même quelque chose de très distinctif. Il y a un Créateur, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut dire de Dieu qu'il est le Créateur, le seul Créateur? Oui, il n'y en a pas d'autre. Est-ce qu'on peut dire de Jésus qu'il est le Créateur? Tout a été créé, exactement d'ailleurs. Tout a été créé par lui et pour lui. On n'est pas en train de parler de Dieu le Père, c'est on est en train de parler du Fils. Mais le Fils est l'image exacte, parfaite de Dieu le Père. Bien qu'il soit distinct, il y a le Père et il y a le Fils. Pourtant, les deux ont en partage les mêmes attributs de la divinité. Est-ce que Dieu soutient le monde aujourd'hui? Est-ce qu'il a fait que le lancer et après il s'en soucie plus? Ou est-ce qu'aujourd'hui même, si le soleil s'est levé, si à cette seconde même ton cœur vient de battre, si tu as pu respirer une nouvelle respiration, est-ce que c'est pas Dieu qui t'a donné tout ça? Mais on lit dans le passage, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. La différence entre Dieu et nous, c'est que peut-être parfois on a un peu de sagesse. Ça fait partie des restes de l'image de Dieu. Donc, peut-être parfois on est capable d'un peu de bonté. Ça fait partie des restes de l'image de Dieu. Peut-être parfois on est capable de montrer un peu de patience. Ça fait partie des restes de l'image de Dieu. Mais en ce qui concerne Jésus-Christ, on lit au verset 19, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, en Jésus. Jésus est entièrement, totalement, vraiment Dieu. Il est celui qui nous fait connaître le Père de la façon la plus parfaite et complète possible. Ok, donc on vient d'expliquer qu'il y avait des choses visibles, des choses invisibles, qu'on avait besoin pour connaître les choses invisibles du Fils, qui nous met en lumière, qui nous révèle qui est Dieu, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Et que tout existe et tout subsiste par lui. Alors, si on continue un petit peu la lecture, verset 15, on va voir qu'il est aussi le premier-né de toute la création. Alors, premier-né, c'est un terme qui peut parfois nous égarer. Qui est le premier-né chez toi?
Elias.
Elias, c'est l'aîné des fils de Alinopa. C'est lui qui est né en premier, c'est lui qui est le plus vieux des trois garçons, c'est l'aîné dans la famille. Mais le premier-né, c'est pas toujours celui qui est né le premier selon la Bible. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Est-ce que vous pouvez penser, est-ce qu'on peut penser ensemble à des exemples de certaines fois où celui qui est né en premier dans la famille, il n'était pas forcément le premier-né de la famille. Il y a une petite différence entre être le premier-né et être né le premier. Vous voulez qu'on réfléchisse un peu à ça? Donc, si on prend la famille avec laquelle Dieu s'engage, d'accord ? Donc Abraham, ça commence avec Abraham. Qui est le premier-né ? Le né, plutôt né le premier chez Abraham.
Ismaël.
Sauf que le problème, Ismaël, c'est pas avec la bonne femme. D'accord ? C'est pas le couple que Dieu avait en vue au départ. Alors il y a un petit décalage. C'est vrai, Ismaël est né le premier comme descendant d'Abraham, mais c'est pas lui qui est l'héritier des promesses d'Abraham. N'est-ce pas ? Parce que Dieu voulait qu'il soit Abraham par Sarah qui ait cette descendance qui vient, par sa femme, on va dire, première et légitime. Donc, le premier-né chez Abraham, c'est qui ? Du coup, c'est Isaac, bien qu'il ne soit pas né en premier. Ce n'est pas le plus vieux des enfants d'Abraham. Isaac, il a lui aussi des enfants, cette fois-ci avec la bonne femme. D'accord ? Mais il en a deux. Vous vous rappelez leur nom ? Ésaü et Jacob. Qui c'est qui naît en premier ? C'est Ésaü qui naît en premier. Mais qui est-ce qui est le premier-né dans la famille de Jacob ?
Isaac.
Isaac, pardon. Vous donnez la réponse, c'est Jacob, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous rappelez le plat de lentilles ? Et Ésaü a vendu son droit d'aînesse, son droit de premier-né à son frère Jacob. Et Jacob est celui qui est l'héritier de la promesse. Et si on lit dans Romains, on voit que tout ça était dans la souveraineté de Dieu, ce qu'il avait prévu avant ces circonstances-là étaient selon le plan établi de toute éternité par Dieu. Donc c'est par Jacob que s'accomplissent les promesses d'Abraham et de toute la famille. Alors Jacob, il a combien de fils ?
12.
Oulala. Alors on va faire toute la liste. Ça commence avec
Ruben.
On va pas faire toute la liste. Ruben, c'est celui qui naît le premier. C'est le plus âgé de tous les enfants de Jacob. Mais c'est qui le premier né selon Jacob ? C'est Joseph. Joseph, il aime Joseph, Jacob. Hein. Il lui donne un manteau, il le place en supériorité par rapport à tous ses frères. D'ailleurs, ça finit par les agacer, etc. Donc, vous connaissez l'histoire de Joseph. Pour Jacob, le premier-né à ses yeux, à lui, c'est le numéro 11, Joseph. Et aux yeux de Dieu. Alors là, on va demander à Timothée. Aux yeux de Dieu, c'est qui le premier-né dans la famille de Jacob ? C'est Judas. D'accord ? Et Judas, on le voit dans la bénédiction que Jacob donne à ses fils, inspiré par Dieu à la fin du livre de Genèse. Et Judas ressort comme celui qui aura que sept, celui qui aura le commandement sur ses frères. Donc aux yeux de Dieu, c'est le numéro 4 en ordre de naissance, qui est en fait l'aîné, celui qui a le rôle de chef sur toute la famille. Alors ici, il nous est dit dans Colossiens que Jésus, le Fils, est le premier-né de toute la création. Non pas parce qu'il aurait été créé en premier, et nous on serait tous créés à la suite de lui, mais non, il est le Créateur. C'est lui qui a tout créé. Donc il n'est pas du tout dans la même catégorie que nous. Donc premier-né, ça ne veut pas dire celui qui vient en premier à l'existence, mais c'est celui qui règne, celui qui est chef sur toute la création. Sur le visible et l'invisible, vous avez remarqué. Pensez déjà à ce qui est visible. Pensez à ce qui a du pouvoir, une autorité. La personne la plus importante que tu connaisses. Celui qui te fait un peu... celui à qui tu dois te soumettre. Peut-être, ça peut être le directeur de l'école, ou la proviseure du collège. Enfin, respecter cette personne, n'est-ce pas ? Il y a les policiers qui contrôlent la route. L'autre jour, j'étais... à la sortie de Cavaillon qui faisait un contrôle de police, le policier n'a qu'à montrer un geste et les automobilistes ils se mettaient sur le côté et s'arrêtaient. Oui, monsieur, qu'est-ce qui se passe ? On est obligé de respecter les policiers.
La femme à la maison.
La femme à la maison.
Je sais pas si t'as bien pris dans ta message. Hein.
Le mari est le chef, n'est-ce pas, de la famille. Mais la femme n'est pas sans responsabilité aussi, donc oui, il faut respecter. Le président de la République. Ok, et puis on peut monter la table. Alors Jésus est au-dessus de toutes ces personnes visibles, et même de ce qui est invisible. Autant les anges au service de Dieu, en train d'être dans la présence glorieuse de Dieu, en train de proclamer sa sainteté. Il a un mot à dire, et comme le bon, ils arrivent et ils font ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils obéissent à la voix de qui ? Ils obéissent à la voix de Dieu, ils obéissent à la voix du Fils, car il est le premier de toute la création. Et on peut penser aux anges bons, et on peut penser aux anges qui sont dans la rébellion contre Dieu, avec à leur tête le diable. Mais Jésus est plus grand, plus puissant, plus important, parce qu'il est Dieu lui-même. Tout est de lui, par lui et pour lui. Tu peux penser aussi loin que tu veux les astres. Est-ce que quelqu'un a déjà été sur le soleil ? Impossible, n'est-ce pas ? Mais Dieu, lui, le Fils, lui, règne sur le soleil. C'est une petite boule de feu dans sa main. Et il connaît d'autres soleils que nous, leur lumière ne nous atteint même pas. Et c'est lui qui règne suprêmement sur tout ça. On peut penser à l'infiniment petit. Jésus est aussi celui qui règne sur l'infiniment petit. Et les cellules à l'intérieur qui composent ton corps, microscopique, qui tout accumulé ensemble, des millions de cellules font que tu peux bouger tes doigts, tu peux respirer, tu peux voir, tu peux entendre, tu peux serrer quelqu'un dans tes bras, tu peux faire plein de choses, tu peux manger. Tout ça, c'est Dieu qui contrôle. C'est Jésus, le Fils. Il est la personne la plus importante de tout l'univers. Alors, Dieu par rapport, et plutôt Jésus par rapport à Dieu, Jésus par rapport à la création. Et au verset 18, on lit, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né. Alors on a compris maintenant, quand on dit premier-né, ça ne veut pas dire celui qui est le premier dans l'ordre chronologique. C'est celui qui est le premier en ordre d'importance. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Non seulement Jésus est le chef de la création, mais il est aussi le chef de toute l'Église. Et ça comprend carrément aussi. Jésus est à l'œuvre partout dans le monde pour sauver. On a un témoignage. Les gens arrivent d'Iran. Fatima arrive d'Iran. Elle a connu le Seigneur là-bas. Dieu a fait commencer une œuvre là-bas. Et il est en train de faire des choses magnifiques en Iran, comme il est en train de faire des choses magnifiques ici à Paris. Et en Corée du Nord, et aux États-Unis, et au Mexique, partout, Dieu, ou Jésus, est le premier-né de l'Église, la tête du corps qui est l'Église. Si certains entendent l'Évangile et croient, c'est parce que Jésus leur donne de croire et d'entendre ses paroles. On a eu ici, la semaine dernière, Steve, qui nous a parlé de la parabole du semeur. Il y a beaucoup qui ont entendu, chaque terrain a entendu quelque chose de l'Évangile. Et il n'y en a qu'un seul terrain qui a produit un fruit, qui est venu, plutôt une plante qui est venue à maturité, qui a porté du fruit, n'est-ce pas ? Et ça, c'est un don de Dieu. C'est l'action de Jésus. C'est parce qu'il est le chef de l'Église qui est son corps. L'Église grandit partout dans le monde. Un corps grandit, qui se développe. Mais un corps sans tête, c'est horrible. Hein. Ça, c'est un film d'horreur. C'est pas beau à voir du tout. C'est un cadavre. Ça ne marche pas. La tête, c'est elle qui dirige tout, n'est-ce pas ? Toutes les parties de notre corps sont reliées à notre cerveau, à la tête. Et si on n'a plus notre tête, alors tout le corps, il n'y a aucune partie du corps qui fonctionne. Il est le premier-né d'entre les morts. Est-ce que c'était lui qui est ressuscité le premier ? quoi tu penses? J'ai entendu le nom. Ah, Lazare. Mais Lazare est le premier être humain, bon, pas forcément même le premier, mais en tout cas, il est ressuscité avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Même dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Élisée a ressuscité. La fille de Jaïrus était morte. Et Jésus l'a ressuscité. Chronologiquement, Jésus n'est pas le premier homme à être ressuscité. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Lazare, ou pour la fille de Jaïrus, ou pour l'enfant qui est Élisée a ressuscité?
Ils
sont à nouveau morts. Voilà. On se dit presque les pauvres, on ne sait pas trop comment. Qu'est-ce que c'est comme expérience de vivre ça? Ils sont de nouveau morts et maintenant ils attendent la vraie résurrection finale, totale, éternelle, n'est-ce pas? Tandis que Jésus, lui, il est mort, il restait trois jours dans la tombe, le troisième jour, il est ressuscité une bonne fois pour toutes, définitivement. Et c'est lui qui va donner la vie de nouveau à Lazare, à la fille de Jaïrus, au dernier jour. Alors là aussi, c'est lui qui est le chef, parce qu'il est effectivement le premier qui est ressuscité pour toujours, pour entrer dans la gloire de Dieu, pour s'asseoir même à la droite de Dieu sur son trône. Si on a compris ça, que Jésus est la personne la plus importante de tout l'univers, ça change un peu notre perception. On n'est pas juste des admirateurs de Jésus. Oh, qu'est-ce qu'il a bien parlé. Oh, qu'est-ce qu'il a fait du bien. Socialement, il était champion, hein, parce qu'il a vraiment pris soin des pauvres et de ceux qui étaient mis de côté de la société. Mais on est plus que des admirateurs de Jésus. On est plus même que des disciples de Jésus. Ah, ça fait réfléchir cette parole. Je vais un peu méditer sur ça. Je vais essayer de me laisser renseigner par Jésus. Si on a compris ce que ce passage nous dit, on doit être plus que tout cela. On doit être des adorateurs de Jésus. Car il est la personne la plus importante de tout le monde. Pour laisser cette pensée rentrer un peu dans notre cœur, et qu'on voit qu'est-ce que Jésus est en train de faire par rapport à Dieu, par rapport à l'univers, la création, et par rapport à l'Église. Verset 19, on lit que Dieu, en effet, a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Lui, c'est Jésus, c'est le Fils. Dieu a voulu que toute la plénitude de Dieu habite dans le Fils. Et si il fallait quelqu'un de partir pour venir au secours d'une race devenue imparfaite, la race humaine, notre race, nous, les humains. Alors, voilà ce que Jésus a fait. Il s'est revêtu de toute la plénitude qui habitait en Dieu. Et il est venu dans ce monde pour sauver. Et c'est pas qu'il s'est revêtu comme s'il avait pu gagner quelque chose, comme s'il avait pu payer quelque chose à Dieu, mais c'est qu'il avait ça. Parce que le Père, de toute éternité, avant même la création du monde, il avait déjà donné toute cette plénitude de la divinité. C'est quelque chose assez incroyable quand on essaie de réfléchir à ça. De toujours, il y a le Père qui est entièrement parfait en Dieu. Il y a le Fils qui est entièrement parfait en Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui est entièrement parfait en Dieu. Ils n'ont pas de commencement. Depuis toujours, ils sont là. Depuis toujours, ils sont ensemble, partageant cette même nature parfaite. Bien qu'ils soient trois personnes distinctes. Intimement en relation, les trois ensemble, et partageant la même nature. Et s'il fallait un sauveur, il fallait que dans le Fils, il y ait toute la plénitude de la sagesse, de la bonté, de la justice, de la sainteté, de la pureté, de la vérité qui est dans le Père. Alors Jésus a amené tout ça quand il s'est incarné, quand il est devenu un homme. Il est le sauveur dont on avait besoin. On continue alors verset 20. Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. Et qu'est-ce qui est au commencement Dieu crée le ciel et la terre. Tout ce qui existe, n'est-ce pas, est devenu chaotique maintenant, à cause de la rébellion d'Adam. Autant des choses visibles, et on parle de nos jours beaucoup de la pollution, des déséquilibres qu'il y a dans la nature, du gaspillage, l'exploitation trop intensive de ce qui existe sur la surface de la planète. Autant ce qui est visible que ce qui est invisible, même à nos yeux. On a déjà parlé des anges, bons ou rebelles. Alors Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Il y avait au commencement, avant que tout devienne chaos, une image de Dieu. Vous rappelez qui c'était? C'était Adam, n'est-ce pas? Adam était le premier, chronologiquement en tout cas, on va dire dans le sens de la création, celui qui devait être l'image de Dieu. Et une des illustrations que j'ai entendues cet été qui m'a vraiment trouvé convaincante, alors je vous la donne telle qu'elle, c'est pas de moi, je l'ai piqué, alors, c'est pas bien, mais je pense que ça peut être utile pour nous. Imaginons une pièce de théâtre, d'accord? Alors, Kevin, on va lui donner trois lignes à apprendre pour la pièce de théâtre. Hein, c'est pour dans quelques mois, on va se préparer. Ali, on va lui donner cinq lignes. C'est une réplique de cinq lignes. Daniel, une ligne. Et moi, j'ai 10 000 lignes. 10 000 phrases à apprendre. Alors, on répète, et on est à la veille de la représentation. Et la veille de la représentation, l'acteur principal tombe malade. Il est grippé, il ne peut plus se lever, il a la fièvre, il est cloué au lit. Qu'est-ce qui se passe? Ali, il a appris ses 5 lignes, quelle ligne? Il a appris ses 3 lignes. Daniel, elle connaît sa ligne. Mais est-ce qu'on peut faire la pièce de théâtre? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va rendre quelque chose? Jusqu'au moment où l'acteur principal doit parler, ça n'a plus de sens. Et si c'est lui qui doit commencer la pièce, on ne comprend rien. Ça n'a plus aucun sens, c'est devenu complètement chaotique. La pièce est annulée, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à jouer. Repartez chez vous, il n'y a rien à voir. Quand Dieu a créé le monde, n'est-ce pas? C'était un peu comme ça. Il a donné un rôle à chacun. Chaque élément de la création a un rôle. Les pierres ont quelques lignes à dire à propos de Dieu, de la gloire de Dieu. Les plantes ont des choses à dire à propos de la gloire de Dieu. Les pierres ne disent pas la même chose que les plantes. Certaines choses disent plus que d'autres. Et dans toute cette création, l'acteur principal, c'était Adam. C'était l'humanité qui devait avoir le rôle principal dans cette grande pièce. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le premier Adam, la première image de Dieu, l'acteur principal choisi par Dieu, est tombé malade. Il a chuté dans le jardin d'Éden. Et donc, à partir de ce jour-là, plus de pièces. Ce n'est plus qu'un chaos. Plus personne ne sait quand est-ce qu'il doit intervenir, après qui, comment. Il n'y a plus rien qui tourne rond. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait sauver ce spectacle? Rester dans l'illustration. Un nouvel Adam. Une nouvelle image de Dieu. Un nouvel acteur principal. Un professionnel. Qui connaît toutes les choses qui sont dans le texte de l'acteur principal. Qui est déjà prêt pour venir au pied levé, remplacer l'acteur. Alors, c'est pas lui qui va faire tout. Mais grâce à lui, tout le reste retrouve sa place. Ali, il peut dire ses 5 lignes. Daniel, elle peut dire sa ligne. Kevin, il peut dire ses 3 lignes. Parce que lui, il est là. Il tient l'ensemble de la pièce. Ensemble. Alors, ce que que ce passage est en train de nous dire que Jésus, par sa venue, est venu tout réconcilier, tout remettre en place avec Dieu, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Il a remis les choses en ordre, et pas simplement en termes d'humanité, mais en termes de tout l'univers, de toute la création, tout ce qui est venu à l'existence par la création de Dieu. Même pour ça, la venue de Jésus et la croix étaient nécessaires. Donc, ce que Jésus a fait par rapport à Dieu, ce que Jésus fait par rapport à l'univers, et pour terminer un petit peu ici maintenant avec les versets 21 à 23, ce que Jésus fait par rapport à l'Église, par rapport au croyant. Est-ce que quelqu'un veut nous relire versets 21, 22, 23?
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur.
Merci. On a vu que Jésus est le premier-né de la création, le chef de toute la création, et donc il aura un rôle pour rétablir les choses dans la création, mais ça ne s'arrête pas là. Plus spécialement, plus précisément, Dieu a en vue ceux qui sont décrits ici. Autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par leurs pensées, par leurs œuvres mauvaises, et maintenant eux aussi réconciliés par la mort du Fils dans son corps de chair. Normalement, c'est l'expérience de tout chrétien. De toute chrétienne. Tout chrétien ou toute chrétienne pourrait devoir dire autrefois, j'étais. Quand je regarde ma vie avant de connaître véritablement Jésus, j'étais comme ci, comme ça. Et maintenant, je le connais. Maintenant que j'ai compris le sens de sa venue, de sa mort sur la croix, pour les péchés, de sa résurrection le troisième jour. Maintenant que cette vérité-là a pénétré dans mon cœur, je suis transformé, je ne suis plus le même. C'est différent, tout a changé. Mes affections ne sont plus les mêmes, mes désirs ne sont plus les mêmes. Ce que j'aimais avant, je ne l'aime plus, ou je ne l'aime plus de la même manière. Ce que je n'aimais pas avant, maintenant je le souhaite, je voudrais vivre cela, parce que ça te plaît à Dieu. Si une personne n'a pas possibilité de dire ça dans son expérience, si elle ne peut pas dire ben, « autrefois j'étais comme ça et maintenant je vois le changement radical qui s'est produit dans ma vie », cette personne n'est pas chrétienne. Elle n'est pas réconciliée par Jésus-Christ au Père. Elle peut ressembler à quelqu'un qui vit comme ça pour un temps. Mais dans le fond, rien n'a changé. Et pour qu'il y ait ce changement. C'est pour ça que Jésus est venu. Et ça, son œuvre dans l'Église, dans cette communauté nouvelle d'hommes et de femmes qu'il rétablit à l'image de Dieu. Autrefois, ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. C'est encore une illustration qui m'a bien convaincu que je vous donne. Imaginez un bateau. Et sur ce bateau, il y a un équipage. Donc, il y a des hommes d'équipage. Ils sont partis pour un bon moment. Ils ont emmené avec eux des femmes, leurs femmes. Ils ont avec eux des enfants, des petits garçons, des filles. Et quand on les voit sur ce bateau, c'est super. Parce que ils prennent leur repas ensemble. Ils mangent ensemble. Et ils sont contents de se retrouver plusieurs fois dans la journée pour partager leur repas. Et il y a des tâches à faire sur le bateau pour le faire fonctionner, et chacun a son rôle, chacun a sa place, et chacun donne un coup de main à l'autre, et le bateau peut bien avancer et fonctionner. Et être sur un bateau, c'est pas toujours simple, des fois il y a des tempêtes, des fois il y a des difficultés, mais les uns les autres sur ce bateau, ils font gaffe aux petits enfants. Et les adultes entre eux aussi, veillent les uns sur les autres. Et quand il y en a un qui n'est pas bien attaché, par exemple, quand il y a beaucoup de houle, Il vient, il lui dit, fais gaffe, ton nez n'est pas bien fait, je vais t'aider à le refaire. Ils sont vraiment super les uns avec les autres. Ça donne envie d'être presque d'être avec eux. Et voilà que ce bateau débarque plutôt à Brest. Il accoste à Brest. Et tout l'équipage descend du bateau. Et à peine ils sont arrivés sur le quai qu'il y a l'armée qui leur tombe dessus. Ils se saisissent de tous ces gens. Et ils les emmènent pour être jugés et mis en prison. Pourquoi ?
C'est un pirate.
Pourquoi ? Il a dit parce que ce sont des pirates. C'est un bateau de pirates. Entre eux, ils sont bien, mais le problème, c'est qu'ils sont en rébellion, en révolte contre le roi. Et donc, quand ils arrivent à un moment dans son territoire, ils se font prendre. Ils ont pu être aussi gentils qu'ils voulaient ou qu'ils pouvaient dans leur bateau, entre eux. Mais le problème, c'est pas d'être gentils les uns avec les autres. Le problème, c'est d'être réconciliés, d'être en bon terme avec le roi. Est-ce que vous comprenez les implications de ça? Jésus a tout réconcilié. Il est venu, maintenant pour réconcilier des ennemis, des étrangers, par sa mort, dans son corps de chair, pour vous faire paraître, pour faire paraître ces groupes de personnes révoltées maintenant. Sainte, sans écho, sans reproche, pour annuler les condamnations qui pesaient sur leur tête. Vous voyez, l'évangile, c'est pas il faut s'efforcer d'être gentil les uns avec les autres. L'évangile, c'est pas il faut veiller un peu à notre moralité pour être un peu plus haut que le standard de ce qu'on peut observer autour de nous pour sortir un petit peu du lot. L'évangile, c'est pas ça le cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile, c'est la justification de nos péchés par Jésus-Christ. La justification, ça veut dire pas, quelqu'un est venu donner une explication, il faut que tu comprennes, il a fait ça parce que ceci, cela. Dans les termes bibliques, justification, ça veut dire déclarer juste. Quelqu'un a été condamné, mais le juge peut quand même déclarer cette personne juste, acquittée de toutes ses peines, parce que un remplaçant est venu. C'est Jésus. Il a pris sur lui la condamnation qui devait tomber sur des ennemis, des étrangers, des rebelles, des révoltés. Si vous êtes devant le juge peut dire, monsieur ou madame, vous avez fait telle chose mauvaise. Au regard de la loi, vous êtes condamné. Mon rôle de juge m'oblige à prononcer cette condamnation, sinon je suis un juge qui est injuste. Mais quelqu'un entre dans le tribunal et dit, quelle est la somme à payer? Qu'est-ce qu'il faut pour que cette personne soit libérée? Et elle paye à notre place. Est-ce que Jésus est venu faire? C'est ça que ça signifie, la justification. On est déclaré juste sur la base de la mort de Jésus-Christ dans son corps de chair. C'est lui qui peut nous faire paraître devant Dieu, saint, sans défaut et sans reproche. Et non seulement Dieu nous déclare juste, il règle le problème de notre péché, de notre condamnation, mais en plus de ça, il nous crédite de toute sa justice. Il met à notre compte, non pas on se retrouve plus, pas simplement, ok, compteur remis à zéro, vous avez zéro sur votre compte en banque, monsieur. C'est bien, vous avez épongé vos dettes, mais vous avez zéro. C'est non seulement que nos dettes sont épongées, si vous voulez réfléchir en termes de crédit débit. Mais en plus de ça, on a maintenant des milliards et des milliards et des milliards. On ne sait même pas imaginer ce que ça peut représenter, ce qu'on peut faire avec tout ça. C'est un crédit qui nous a été offert gracieusement par Jésus. Et pour revenir du coup à notre vie à nous, c'est le crédit de la justice parfaite de Dieu. Est-ce que vous imaginez qu'on peut se tenir devant Dieu sans défaut? on réfléchit à la semaine qui vient de passer. Mais parce que Jésus est venu, qu'il a payé de sa vie à la croix pour nous, on peut être devant Dieu aujourd'hui, considérant, sans défaut, sans reproche, saint. Si c'est qu'une semaine qu'on peut avoir en vue, imaginez toute une vie. Qu'est-ce qui se passera le jour où on sera au jugement, devant le trône de Dieu, que les livres seront ouverts, que tous les actes, toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos motivations seront écrites dans ces livres. Ce qui est bien, ce qui est mal. Quelle joie ce sera quand on ouvrira aussi le livre de la vie, n'est-ce pas? Oui, Marc-Étienne est coupable de ça. Multipliez ça autant que vous voulez. Mais son livre, dans le livre de vie, son nom est inscrit. Jésus a payé. Autrefois, il était étranger, ennemi de Dieu, rebelle, révolté. Mais maintenant, il est réconcilié par la justice dans son corps de chair. Je sais que plusieurs ici ont fait cette expérience. N'est-ce pas magnifique de considérer ce que Jésus a fait pour l'Église? Alors, verset 23 nous dit: mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. C'est cet évangile-là dont je viens de parler qu'il faut rester. C'est à cet évangile-là qu'il faut rester attaché. C'est à cette vérité-là qu'il faut rester attaché. Non pas à l'éthique, non pas à la morale, non pas à être gentil, même si ça sera bien sûr des conséquences de notre vie nouvelle. Mais la vérité qui nous tient comme une ancre aujourd'hui et jusque dans l'éternité, c'est cette bonne nouvelle du salut offert par Jésus. La paix est déclarée juste grâce à lui. Non pas selon nos mérites, et d'avoir à notre crédit sa justice parfaite qui nous permet de nous tenir devant Dieu, réconcilié avec lui. C'est important, pas juste de comprendre ça, c'est important, pas juste de savoir l'expliquer, de pouvoir jouer un peu avec les concepts. C'est important de pas juste imiter ceux qui croient ça. C'est ce que le verset 21, prenez-vous. C'est important de véritablement fonder sa vie sur cette vérité. Pour ça, on a besoin de fixer les regards sur la personne la plus importante de l'univers et tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a accompli pour nous. Enfin, de Jésus-Christ, bien sûr. Et si cette semaine, on veut rester ancré dans cette foi, il faut qu'on regarde à la personne la plus importante de l'univers et ce qu'elle a fait pour nous. Et s'il y a des tempêtes qui viennent, et s'il y a des orages qui viennent, s'il y a des tuiles qui nous tombent sur la tête, s'il y a des moments difficiles à passer, il faut qu'on reste les yeux fixés sur celui qui est la personne la plus importante de l'univers et ce qu'elle a fait pour nous, Jésus-Christ. Tout Colossiens nous parle de l'importance de garder les yeux fixés uniquement sur Jésus, la personne la plus importante de tous les livres. Parce qu'il y a d'autres voix qui vont venir essayer de nous séduire en disant peut-être que tu pourrais, en plus de Jésus, avoir un peu ceci, un peu cela, un peu de philosophie, un peu de rituel, un peu de sagesse humaine. Mais Paul dit, il faut croire, il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi en la personne la plus importante de tous les livres. La foi, c'est pas juste croire qu'elle est là, c'est mettre sa confiance dans cette personne, dans la personne de Jésus. Alors, je vous invite à réfléchir, à méditer sur ça en chantant le chant suivant: quand je contemple cette parole, et on va partager le repas du Seigneur ensemble aussi pour